France Info.
Politique de France Info ce matin, c'est le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Bonjour.
Bonjour.
Nous serons cinq ce matin pour vous interroger. Vous serez seul. Renaud Dely est à mes côtés, bonjour, comme chaque matin. Mais j'ai le plaisir surtout, en plus de vous accueillir, merci, évidemment, merci. Renaud, d'accueillir ceux qui vont donc vous interroger. Celles et ceux des élèves de 6e qui viennent d'un collège des Hauts-de-Seine et qui vont donc vous interroger à nos côtés ce matin, Jean-Michel Blanquer. C'est à l'occasion de la semaine des médias et de la presse à l'école. J'ai le plaisir d'accueillir Shaima. Tout d'abord, bonjour Shaima.
Bonjour.
Quel âge as-tu ?
J'ai 11 ans.
Est-ce que tu as préparé tes questions pour le ministre ?
Oui.
Est-ce qu'elles sont redoutables ?
Oui.
Oui. On verra ça. Iliès, à côté de toi. Bonjour Iliès.
Bonjour.
T'as bien dormi ? Pas trop de stress ?
Oui, j'ai bien dormi.
T'as bien dormi ? T'es prêt toi aussi ?
Oui.
Lynn, juste à côté de toi. Vous venez tous les trois du même collège. Vous nous rappelez le nom ?
Oui. Georges Seurat.
Georges Seurat. Georges Seurat qui se trouve donc à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Lynn, toi aussi, tout va bien ?
Oui.
C'est toi qui as le plaisir de poser la première question à ton ministre pour te mettre un peu la pression. C'est ton patron, Jean-Michel Blanquer, c'est lui qui gère 1 million d'enseignants, 12 millions d'élèves et il est face à toi.
Pensez-vous que c'est une bonne chose que les étudiants manifestent pour le climat ?
Oui, je pense que c'est une bonne chose puisque le climat, c'est peut-être le sujet le plus important de notre époque. Nous savons tous que nous devons avoir à affronter cette question du changement climatique et que ça dépend beaucoup de nos comportements à tous au quotidien et que c'est un sujet du futur, donc un sujet qui concerne d'abord et avant tout la jeunesse, mais qui concerne évidemment le monde entier et toutes les générations. Donc c'est très important de se mobiliser pour le climat et puis de le faire dans une perspective très concrète et très constructive, c'est-à-dire de faire des propositions pour que ça change vraiment. Et c'est pour ça que j'ai proposé aux lycéens de faire un débat dans les lycées vendredi dernier et qu'on va continuer. Et le 5 avril prochain, on va avoir un grand débat avec les représentants des lycéens de toute la France pour voir leurs propositions, par exemple, pour que les choses changent au quotidien, à l'école, au collège et au lycée, à la cantine, par exemple, tu vois, pour mieux trier les choses ou pour mieux isoler les bâtiments, pour faire tout ce qu'il faut pour éviter la pollution, contribuer à la biodiversité et lutter contre le changement climatique.
Lynn, Iliès, Shaima, je ne sais pas si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs qui sont allés manifester ces derniers jours ?
Non.
Non. Vous seriez allé, vous êtes un peu petit encore, vous avez 11 et 12 ans, vous seriez allé manifester,
oui.
Vous ?
Moi, oui.
Oui, oui. Tous les trois ?
Oui. Oui.
Vous en parlez beaucoup, de l'environnement, ensemble, en famille ?
Moi, j'en parle beaucoup.
Oui, ça va.
Ça va ? Ouais. Jean-Michel Blanquer, si vous étiez encore lycéen, vous auriez séché les cours pour aller manifester ?
Alors, non, je ne vais certainement pas sécher les cours. Par contre, participer à cette dynamique, oui. Et donc, là, simplement, il y a des lycéens qui, parfois, n'ont pas cours le vendredi après-midi. Donc, ceux-là ont pu parfois manifester. Mais sinon, ce qui est très souhaitable, au-delà de la manifestation, au-delà du fait de dire quelque chose, c'est évidemment d'agir. Et tout l'enjeu est là.
Justement, Jean-Michel Blanquer, cette dynamique que vous évoquez, ces manifestations, c'est aussi une mise en cause de l'action des pouvoirs publics et notamment du gouvernement sur cette question du réchauffement climatique.
Je ne le vis pas comme ça du tout. Je pense que s'il s'agit de regarder l'action des gouvernements sur un tel sujet, c'est les gouvernements depuis toujours, si je puis dire. Et l'actuel gouvernement a fait énormément de choses déjà pour les enjeux d'environnement. Il peut faire encore plus. Mais je n'ai pas du tout vécu ces manifestations comme une mise en cause. Au contraire, je les vois comme une accentuation de la tendance que nous souhaitons, qui est d'agir pour le climat.
Shaima avait une question pour vous, Monsieur Blanquer.
Bonjour, que pensez-vous des gilets jaunes ?
Ah. Alors, les gilets jaunes, c'est quelque chose qui, d'abord, est assez hétérogène, hein, dit beaucoup de choses à la fois.
Hétérogène ? Ça veut dire quoi, hétérogène ? Alors, on va te fixer une règle. Ici, c'est quand on comprend
pas les choses,
on va
dire. D'accord,
hétérogène, monsieur le ministre, on va essayer d'être plus
pédagogue. Hétérogène, ce serait quoi le contraire de hétérogène ?
Homogène.
Voilà, homogène. Et homogène, ça veut dire quoi ?
C'est quand deux équipes,
c'est organisé.
Oui, tu as raison.
C'est quoi ?
Bah, homogène, c'est quand on met deux liquides dans un récipient, on n'arrive pas à les distinguer.
Alors c'est ça, quand on a réussi à les mélanger et en faire une seule
chose. Hétérogène,
ça veut dire très
différent. Donc voilà, hétérogène, ça veut dire très différent. Donc ça recoupe des choses très différentes.
Donc les gilets jaunes, il y a des liquides différents, ce que vous voulez dire, Jean-Michel.
Il y a des revendications différentes, des personnes différentes, et c'est bien normal. Mais à mes yeux, ça reflète surtout le fait qu'il y a une inquiétude sur le futur et une inquiétude qui a trait beaucoup aux injustices territoriale et le fait qu'on ne se sent pas à égalité selon le territoire où on habite. Et donc l'injustice territoriale recoupe l'injustice sociale. Et ça fait maintenant des années que l'on sent cette fracture territoriale, le fait que parfois quand on habite une petite ville ou un village éloigné, on a l'impression d'être moins près des services publics, moins bénéficier de mobilité, et donc par exemple avoir plus de difficultés pour bouger tout simplement, parce que c'est cher de mettre de l'essence dans sa voiture, etc. Donc il y a une contradiction entre le fait que justement on veut qu'il y ait moins de moins d'essence utilisée, donc pour ça on a eu une essence plus chère, et le fait que bien, c'est la vie de tous les jours des gens qui a été mis en question par ce type de mesure. Donc aujourd'hui, ce que l'on essaye de voir, c'est comment on peut avoir un développement économique qui soit compatible avec l'écologie et aussi avec tout simplement la vie quotidienne de chacun. Et ce qui me paraît très important sur ce sujet aussi, c'est qu'on sorte de l'aspect conflit des choses, de l'aspect parfois violent qu'on a eu ces derniers jours, pour arriver à des propositions, et c'est pour ça qu'il y a eu ce grand débat. Et débattre, c'est toujours mieux que combattre.
Alors Iliès, je crois que sur un autre sujet, tu as une question pour Jean-Michel Blanquer.
Comment pensez-vous gérer Parcoursup ?
Ah. Alors, Parcoursup,
Je peux te poser une question, Iliès. Oui. Qu'est-ce que tu sais, Iliès, de Parcoursup ?
Alors, ma sœur, elle m'a dit que Parcoursup, c'était, ça change les choses parce que c'est plus difficile de choisir la fac où on veut aller parce qu'on te laisse des choix. Mais par exemple, si c'est les facs les plus proches et pas ceux de... Et pas ce en fait que tu veux. Et tu dois choisir entre les choix qui t'ont donné.
Elle a raison, la sœur d'Iliès ?
Oui et non. Le Parcoursup, c'est un système pour aller dans l'enseignement supérieur. Et c'est un droit en France. Quand tu as eu ton baccalauréat, tu vas dans une université ou dans un établissement, une grande école, un établissement d'enseignement supérieur. Il y avait auparavant un autre système qui était moins bien, nous pensons, parce que ce système était beaucoup plus aveugle. Et notamment à la fin... On faisait un tirage au sort, et c'est ce qui nous pour certains élèves, ce qui nous paraissait très injuste. On est donc passé à Parcoursup, qui est un système qui prend plus en compte ce que chacun a fait et ce que chacun veut pour l'affecter. Donc tu dois dire dans Parcoursup ce que tes notes, tes désirs aussi, et ton dossier est étudié par l'université qui va te recevoir. Donc les élèves, les bacheliers, sont affectés de manière plus rationnelle que précédemment. Donc Parcoursup, ça a permis quand même, tu vois, d'affecter 30 000 élèves de plus l'année dernière. Et puis par rapport à ce que tu viens de dire, l'année dernière, on disait qu'à cause de Parcoursup, il y aurait moins d'élèves des académies de Créteil ou de Versailles. Par exemple, vous êtes de l'académie de Versailles, donc de l'ouest de Paris. Et Créteil, c'est l'est de Paris. On disait qu'ils auraient moins accès aux universités de Paris. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont eu plus accès. Donc en fait, ça a été dans le sens de plus de justice sociale. Et on va continuer à faire progresser le système pour qu'il en soit ainsi.
Une toute petite pause, c'est l'heure de la récré, 8h40, le rappel de l'actualité, David Doba, et on se retrouve tous ensemble juste après.
Et tout d'abord, ce carnage évité de justesse. Hier en Italie, 51 collégiens pris en otage et menacés dans un bus. Ça s'est passé près de Milan. Le chauffeur, italien d'origine sénégalaise, les a ligotés avant de verser de l'essence dans le véhicule. Il menaçait d'y mettre le feu. Ils ont eu la vie sauve grâce à un jeune garçon de 13 ans qui a pu alerter les carabiniers avec son téléphone portable. Le preneur d'otages évoquait le sort des migrants africains morts en Méditerranée. Avant Monaco et la France, Xi Jinping attendu en Italie dès ce soir. Le président chinois doit y signer un accord intégrant Rome à son projet géant de route de la soie. Une coopération qui fait grincer les dents les partenaires européens et notamment la France. Il affirmait qu'il s'agissait d'un pistolet à eau. Alexandre Benalla, une nouvelle fois mis en examen. Elle concerne cette fois-ci l'épisode du selfie le montrant avec une arme. Il devra s'expliquer pour violence volontaire en réunion sans incapacité. Et puis les autorités redoutent un nouveau week-end particulièrement dur et violent avec les gilets jaunes. Conséquence, Édouard Philippe annule son déplacement en Guyane. Parallèlement, la force sentinelle sera mobilisée de manière renforcée. Un objectif, protéger les bâtiments officiels et permettre aux forces de l'ordre de se concentrer sur le maintien de l'ordre.
Nous sommes toujours avec Shaima, Iliès, Lynn, 34 ans, à eux trois, qui interroge le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et toujours avec Renaud Dely.
Un peu plus que 34 ans. Jean-Michel Blanquer, une question d'actualité avant d'en revenir aux questions des enfants. Le gouvernement a décidé de déployer la force sentinelle et que les militaires viennent en renfort des policiers à l'occasion de la prochaine mobilisation des Gilets jaunes samedi prochain. Est-ce que c'est pas une prise de risque considérable ?
Non, c'est un changement de degré plus qu'un changement de nature, puisque en fait, on est déjà habitué à avoir Sentinelle dans Paris pour protéger les bâtiments publics. Et d'une certaine façon, c'est une accentuation de la force de l'armée pour des aspects qui ont trait aux fonctions de l'armée. Et ça libère d'autant plus d'espace pour la police qui pourra faire son travail de police. Donc je pense que c'est pas un réel changement de nature, encore une fois. C'est simplement un déploiement un peu plus fort de quelque chose qui existe déjà.
Iliès, une question à Jean-Michel Blanquer.
Est-ce que c'est l'État qui paie les écoles ?
Oui. Alors, plus exactement, s'agissant des écoles, c'est les communes qui payent le bâtiment, tu vois, qui sont responsables du bâtiment. Quand c'est collège, c'est ton conseil départemental. Donc pour votre collège à vous, c'est le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Et puis quand c'est un lycée, c'est la région. Donc dans votre cas, vous, c'est la, quand vous serez au lycée, ce sera un lycée de la région Île-de-France. Ça, c'est pour les bâtiments. Mais s'agissant de tout ce qui est les personnels, les professeurs, toutes les personnes qui travaillent, c'est l'éducation nationale, le ministère de l'éducation nationale qui s'en occupe, c'est-à-dire qui paye les salaires, mais qui aussi s'occupe des contenus, des programmes que vous suivez et de l'ensemble de votre projet éducatif.
Shaima, je crois que tu avais une question sur les téléphones portables.
Oui, pourquoi avez-vous décidé d'interdire les téléphones portables au collège et au lycée ?
Ben, pour votre intérêt à vous, les enfants, parce que l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, on observe dans le monde entier, pas seulement en France, qu'à partir de l'âge de la 6e, vers 11 ans, tous les enfants du monde aujourd'hui font moins d'activité physique et moins de lecture que précédemment. Et tout ça parce qu'ils passent plus de temps sur les écrans. Et donc on considère que c'est pas très bon pour vous, qu'il est bon que vous fassiez du sport, qu'il est bon que vous lisiez, et que donc il est bon aussi que vous soyez entre vous, que vous jouiez entre vous, que vous communiquiez entre vous, plutôt que d'être rivé sur son téléphone. Et puis le smartphone, ça nuit à la concentration. Donc on avait vu que des collèges avaient déjà interdit le téléphone et qu'ils s'en portaient très bien. Et donc on a pensé que c'était bon de le faire pour tous les collèges, comme pour toutes les écoles. Et aujourd'hui, moi tu sais, je vais souvent dans des collèges et je vois le résultat. Et tout le monde me témoigne du fait que c'est clairement une amélioration. Et puis en plus que ça aide les parents ensuite quand ils ont à parler de ça avec les enfants. Parce que même dans votre vie personnelle, après, quand vous rentrez chez vous, bah c'est que vous ayez un téléphone, c'est normal maintenant, mais y passer trop de temps, c'est jamais très bon.
Comment ça se passe chez vous, à Courbevoie? Elle est respectée, la règle? Ils sont où les portables, tiens, quand on rentre à l'école le matin, Iliès?
Quand on rentre à l'école, les portables, on les met dans notre sac et on n'a pas droit de les sortir, sinon les profs, ils nous les prennent.
En fait. Ouais. Ils vous les rendent quand?
Soit à la fin du cours, ou soit à la fin de la semaine, je sais pas. Mais...
Et entre-temps, ils préviennent les parents?
Oui, aïe, je crois.
Aïe, aïe, aïe. La règle, elle est respectée? Tout le temps, il n'y a pas un portable qui sonne jamais en cours, Lynn?
Si, il y en a déjà eu, mais c'était des accidents.
C'est-à-dire, c'est quoi un accident de portable?
Puisqu'en fait, quand on rentre au collège, on doit éteindre complètement le téléphone. Et parfois, peut-être quand des élèves arrivent en retard ou quelque chose comme ça, ils ne pensent pas à l'éteindre. Ils oublient de l'éteindre et du coup, ils sonnent pendant les cours.
Et est-ce que vos profs, parfois, ils oublient d'éteindre leur portable?
Bah oui.
Ouais, ils sont en régie, hein, ils vous écoutent, vos profs. Ils vont vous mettre encore un tout petit peu à la pression.
Ça arrive, mais c'est des profs, donc...
Ils ont le droit. Ils ont le droit, Jean-Michel Blanquer, les profs.
Écoutez, les règles sont... C'est normal que les règles ne soient pas tout à fait les mêmes pour les adultes que pour les enfants.
Les profs peuvent garder leur téléphone sur le bureau?
De façon... Alors parfois, le téléphone peut être un outil pédagogique, nous l'avons dit dans la loi. Dans la loi, on a dit qu'on avait le droit de confisquer, d'ailleurs, c'est donc possible maintenant. Et on a dit aussi que pour un usage pédagogique, on pouvait demander de sortir son téléphone du cartable, parce que parfois, ça peut être pertinent.
Mmh. Renaud Dely.
Lynn, je crois que tu avais une question sur un autre problème à l'école, qui est la question du harcèlement. Tu voulais poser cette question, hein ?
Oui. On parle beaucoup de harcèlement en ce moment. Quelles sont les prochaines mesures que vous pensez mettre en place pour lutter contre le harcèlement ?
Alors, il y a beaucoup de choses à faire pour le harcèlement et on a commencé à en faire beaucoup. Mais la première des choses, c'est la prise de conscience de chacun, et notamment de vous, les enfants. Le harcèlement, ça nous renvoie à quelque chose de très important, c'est-à-dire le fait qu'il y a parfois une tendance mauvaise chez chacun, qui est de prendre un autre enfant pour un bouc émissaire, pour quelqu'un qu'on va persécuter. Et parfois, il y a une tendance mauvaise des autres enfants qui est de se mettre tous ensemble contre une seule personne. Ça, c'est la pire des choses. Et malheureusement, ça existe depuis toujours. Et d'une certaine façon, l'éducation, ça sert à faire le contraire de ça, c'est-à-dire à respecter les autres, à écouter les autres, à ne jamais persécuter qui que ce soit et à ne jamais être violent, évidemment. Donc, lutter contre le harcèlement, c'est lutter pour ce but d'éducation qui est très profond. Et donc, le message qu'on envoie à chaque enfant, c'est ça n'est pas bien, ça n'est pas non plus à la mode, c'est pas quelque chose dont on peut être fier quand on se met à harceler un autre. Donc on a des campagnes contre le harcèlement, mais on a aussi la possibilité de recours contre le harcèlement. Notamment, évidemment, dès qu'on voit un harcèlement, il faut faire quelque chose, en parler à son professeur, c'est la première chose à faire.
Pas toujours facile.
En parler à ses parents.
Parce qu'il s'agit souvent d'élèves de la même classe ou du même établissement, ça veut dire qu'on se les met encore plus à dos si on va les dénoncer?
Non, parce qu'il y a justement des méthodes pour cela. Et de ce point de vue-là, on a maintenant une formation initiale et continue des professeurs qui va prendre de plus en plus en compte les méthodes de lutte contre le harcèlement. Mais je dirais qu'il y a presque un enjeu de mode, si je peux utiliser ce mot. C'est-à-dire que la honte ne doit pas être du côté du harcelé, mais du harceleur. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi au travers de campagnes. Cette année, c'est une campagne notamment contre le cyberharcèlement de nature sexuelle, puisque c'est souvent les petites filles aussi, ou les jeunes filles qui sont victimes de ce type de harcèlement. Et donc, c'est cette prise de conscience qui est fondamentale, et le fait que tout le monde monde se sente responsable. Déjà, tous les adultes de l'établissement sont concernés par le fait de repérer ces phénomènes, de lutter contre. Et ensuite, évidemment, tous les élèves sont concernés aussi, c'est-à-dire que vous-même, dans votre vie quotidienne, quand vous voyez que quelqu'un commence à être embêté par les autres, c'est aussi à vous de jouer ce rôle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a créé maintenant les ambassadeurs contre le harcèlement. On va systématiser ça dans tous les établissements. Je ne sais pas, il y en a peut-être déjà un dans le vôtre.
Il y en a un chez vous ? Non, voilà. Apparemment, ou alors ils ne sont pas au courant.
Oui. Non, mais ce n'est pas encore fait complètement. Mais le principe, c'est d'avoir des élèves qui se responsabilisent. On va vous former aussi beaucoup à la médiation. Ça vous sera utile toute votre vie. C'est-à-dire, quand il y a un conflit entre deux personnes, être capable de comprendre ce qui se passe et essayer de démêler cela. Ça sert aussi à ça, l'éducation. C'est non seulement vous apprendre des choses, mais c'est aussi vous faire vivre des valeurs.
Ilyes, c'est à toi.
Pourquoi les mathématiques deviennent-elles optionnelles pour le bac ?
Alors, c'est pas tout à fait exact. Les mathématiques sont aux trois étages du baccalauréat. Tu as des barres, un petit peu de mathématiques dans le bloc commun, celui que tout le monde va suivre dans la voie générale, parce qu'il y a une matière qu'on appelle enseignement scientifique, au travers de laquelle on fait des mathématiques. Par exemple, dans cet enseignement, il va y avoir quelque chose sur la Terre, et ça rejoint aussi les questions d'environnement, et il y a l'approche mathématique de la Terre. Parce que quand tu dis géométrie, par exemple, c'est la même racine que géographie, et le géo, ça veut dire Terre, et donc quand tu étudies la Terre, tu peux faire de la géométrie. C'est un exemple parmi d'autres. C'est des mathématiques qui sont faites pour tout le monde, de façon à ce que même les élèves qui n'aiment pas beaucoup les mathématiques puissent apprécier cette façon de faire des mathématiques. Ensuite, tu as des mathématiques au deuxième étage, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les enseignements de spécialité. Tu peux en faire 4 heures en première et 6 heures en terminale. Et puis après, il y a un troisième étage, c'est les options, justement. Et là, tu as deux fois des mathématiques. Tu peux prendre mathématiques expertes, ça prend 3 heures. Tu les rajoutes à tes 6 heures d'enseignement en spécialité. Ça veut dire que si tu aimes beaucoup les mathématiques...
Ça n'a pas l'air de l'emballer plus que ça.
Mais peut-être qu'il le fera s'il a envie. S'il n'a pas envie, il ne le fait pas.
C'est ça, dur, là. Les maths.
C'est plus personnalisé.
C'est une discipline...
Non, ça va. Ça va.
Et tu aimes ? Est-ce que c'est un plaisir, les maths ? Est-ce que c'est un plaisir ?
Oui, j'aime bien les maths. Surtout la géométrie.
La géométrie. C'est la bonne réponse qu'il fallait avoir pour vous.
Vous connaissez tous Cédric Villani ? Vous voyez qui c'est ? C'est un grand mathématicien français et qui est... En plus, c'est un député. Et il a écrit un rapport que je lui ai demandé sur comment enseigner mieux les mathématiques en France. Et c'est comme ça qu'on est en train de faire évoluer l'enseignement des mathématiques. Parce que, vous voyez, deux d'entre vous viennent de dire que il peut y avoir du plaisir à faire des mathématiques. Et en réalité, il y a une dimension presque de jeu dans les mathématiques. Et on veut vous faire saisir ça pour que vous puissiez approfondir toujours plus les mathématiques, parce que c'est très utile d'être bon en mathématiques.
On marque une petite pause, le temps de boire un petit verre d'eau, tout le monde, de se reprendre pour la dernière partie de cette émission avec vous, Jean-Michel Blanquer. Ce sera juste après le rappel de l'actualité à 9h10. David Doba.
Et cette reconstitution qui se poursuit en Savoie, en présence de Nordal Lelandais, les enquêteurs sont à Chambéry et dans ses environs pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de la mort du caporal Arthur Noyer. Le militaire avait croisé sa route en 2017 et selon Lelandais, sa mort serait consécutive à une bagarre qui aurait mal tourné. Donald Tusk n'est pas opposé à une courte extension du délai du Brexit. Seule condition, un vote positif sur le texte négocié avec l'UE à la Chambre des communes. Theresa May présente aujourd'hui à Bruxelles sa demande d'un report de 3 mois. Cette situation toujours catastrophique à présent. Au Mozambique, au moins 200 morts, 350 000 sinistrés après le passage du cyclone Idai. L'ONU lance un appel de fonds pour financer les opérations de secours. Après le massacre de la semaine dernière, la législation sur les armes se durcit en Nouvelle-Zélande. La première ministre annonce désormais l'interdiction des armes semi-automatiques ainsi que des fusils d'assaut. Et puis rien n'est encore fait. Elles vont devoir sortir le grand jeu. Ce sera la semaine prochaine. Les Lyonnaises se sont imposées à domicile 2-1 hier soir face à Wolfsburg en quart de finale de la Ligue des Champions.
France Info. Il nous reste 5 minutes, Jean-Michel Blanquer, un peu plus. Réponse courte, question courte également, on va les demander à nos trois enfants qui sont avec nous ce matin sur ce plateau. On va parler de la vie d'un ministre de l'Éducation nationale avec cette question d'Iliès.
À quoi ressemble une journée type d'un ministre de l'Éducation nationale ?
Alors ça commence très très tôt, tu vois, je me lève très tôt le matin, souvent vers 5h ou vers 6h. Et puis ça finit très tard. Par exemple, tu vois, lundi j'étais avec le président qui faisait un grand débat avec des intellectuels qui a duré 6 ou 7 heures. Et là, on a fini à 2h30 du matin. Alors c'est pas tous les jours comme ça, mais c'est pour te dire que parfois ça finit très tard. Quand je commence le matin, je m'informe de tout ce qu'il y a dans les journaux, de tout ce qui se dit. Puis j'ai mon premier rendez-vous à 7h avec les gens qui travaillent avec moi pour faire un peu le point de la journée. En général, ça dure jusqu'à 8h. Et ensuite, je fais un petit déjeuner, souvent avec des personnes extérieures, des personnes qui sont expertes d'un sujet. Et souvent, toute la matinée, je vais la plupart du temps faire mes réunions internes, tu vois, avec tous les gens qui travaillent pour le ministère. Il y a 1 million de personnes qui travaillent pour le ministère, donc tu vois, ça m'oblige quand même à beaucoup travailler sur la façon d'organiser l'interne. Et puis souvent après, et souvent c'est
heureusement que j'ai demandé une réponse courte, hein, parce que
je décris ma journée. L'après-midi, je fais des choses externes. Par exemple, je vais à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions au gouvernement. Alors, je vais dans les établissements scolaires.
Lynn, t'avais une question aussi sur ce drôle de métier.
Quelle étude avez-vous fait pour devenir ministre? Pensez-vous faire ce métier quand vous étiez petit?
Alors, je ne pensais pas que je ferais ce métier quand j'étais petit. Je l'avais pas imaginé, mais par contre, j'ai toujours été intéressé par l'éducation et j'ai assez vite voulu être professeur. Et le domaine dans lequel j'ai fait les études les plus approfondies, c'est le droit. J'ai fait des études de droit et donc je suis un professeur de droit. Mais j'ai toujours été intéressé par la philosophie et par la science politique. Donc j'ai fait des études dans ces trois domaines-là. Et j'ai commencé par être professeur de droit. Et ensuite, étant professeur de droit, on m'a demandé d'être recteur, ça veut dire responsable pour une région de l'éducation. Et c'est ça qui m'a amené progressivement à prendre de plus en plus de responsabilités dans l'éducation.
Encore une question sur la vie de ministre de l'éducation, Shaima.
Avez-vous déjà eu un démêlé avec la justice?
Ah, c'était pas tout à fait une question sur la vie de ministre.
Non, j'ai jamais eu de démêlé avec la justice. Non, merci. Non.
Ilyes.
Est-ce que vous vivez à l'Élysée?
Non, c'est le président de la République qui vit à l'Élysée.
Est-ce que vous aimeriez vivre à l'Élysée?
Non.
Plus tard, quand vous serez grand,
j'ai pas du tout envisagé ça. Non.
Shaima, tu avais une question sur la façon dont le ministre va au travail, non?
Oui. Allez-vous en limousine au travail?
Non, parce que j'habite dans le ministère. Donc tu vois, c'est la première fois de ma vie que j'ai un trajet de si court. Je mets moins d'une minute pour aller à mon travail, c'est très agréable. Avant, dans mon métier précédent, je prenais le RER et j'avais un temps de distance beaucoup plus long. Je mettais 3 quarts d'heure.
Ilyes,
combien gagnez-vous? Est-ce que vous gagnez beaucoup?
Alors, les salaires des ministres sont tout à fait publics, c'est transparent. Il y a une loi qui le dit, donc c'est un petit peu plus de 8000 euros par mois. Et voilà, et c'est le salaire
brut
net,
ou net
des ministres.
Pardon, je ne sais pas si les enfants connaissent la distinction.
C'est 8000,
net, c'est ce que vous avez vraiment sur votre compte en banque.
200, ouais. Enfin, alors maintenant, avec l'impôt à la source, c'est
un petit peu moins que ça.
C'est plutôt 6000.
Lynn, encore une question.
Quel métier faisiez-vous avant d'être ministre?
Alors, juste avant d'être ministre, j'étais directeur d'une grande école qui s'appelle l'ESSEC. Mmh. Et auparavant, j'avais été recteur et directeur de l'enseignement scolaire. Donc, je m'occupais déjà des écoles, des collèges et des lycées au sein du ministère. Mais avant cela, le métier que j'ai fait le plus longtemps, c'est professeur. Et puis, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour l'Amérique latine. Donc, j'ai passé du temps en Amérique latine. Et je me suis beaucoup occupé des questions qui ont trait à l'Amérique latine.
Encore quelques mots, Shaima?
Est-ce que vous décidez la construction de nouvelles écoles? Si oui, envisagez-vous d'en construire une?
Oui, c'est un sujet donc qui est partagé avec les collectivités locales, puisqu'elles sont responsables, comme je le disais tout à l'heure, les communes pour les écoles notamment, et les départements pour les collèges et les régions pour les lycées. Et donc c'est souvent ensemble que l'on regarde cela. C'est un projet commun. Et bien sûr, il y a des constructions d'écoles, de collèges et de lycées qui sont prévues en France aujourd'hui. Et puis avec la loi qu'on a commencé à voter à l'Assemblée nationale récemment, il y a même, tu vois, par exemple, des établissements publics internationaux qu'on a prévu de créer.
Shaima, quand on a préparé cette émission hier, tu nous as dit que tu avais prévu de poser une question à Jean-Michel Blanquer sur le fait de savoir s'il avait déjà commis des erreurs dans sa vie. Est-ce que tu peux nous la détailler, cette question, Shaima?
Est-ce qu'à la radio, vous avez déjà fait une erreur grave?
Par exemple,
un lapsus?
Un lapsus, oui. Alors, d'abord, des erreurs, on en fait toujours. Et quand vous faites des erreurs, la première chose que vous devez vous dire, c'est que c'est pas grave. Quand on fait une erreur, c'est fait pour être corrigé. Et il faut, en France, qu'on accepte que c'est normal de faire des erreurs et que c'est comme ça qu'on progresse. C'est pour ça que je parle parfois d'école de la confiance. Parce que vous devez avoir confiance en vous-même et vous dire, c'est pas grave si j'ai fait une erreur. Par contre, il faut le noter, il faut le s'en rendre compte. Bah, tu vois, une fois, j'ai fait une émission avec des enfants et on m'a demandé de faire une conjugaison et je me suis trompé sur un point de conjugaison. Donc, depuis, tout le monde m'en parle. J'étais fatigué parce que justement, j'avais peu dormi la veille et ça peut arriver. C'est une erreur et c'est pas grave. Le ministre de l'Éducation peut faire une erreur de conjugaison. Et en français, vous pouvez faire des erreurs. Mais l'essentiel, c'est toujours de s'exercer et toujours de chercher à progresser.
Ça arrive avec des enfants et puis ça arrive parfois avec des adultes. Au mois de septembre, vous étiez notre invité et à ce moment-là, on évoquait la réforme de l'accord du parti passé. C'est compliqué, la réforme de l'accord du parti passé. Voilà, souvenez-vous, on va se repasser ce petit moment.
Vous êtes cruel toujours.
que j'ai mangées, les crêpes que j'ai mangées.
Bah, EES, bien sûr.
EES, cas classique. Des crêpes, j'en ai mangé. Des crêpes, virgule, j'en ai mangé.
Oui, aussi. EES.
Et non, c'est non. Et non, c'était et des crêpes, j'en ai mangé.
J'en ai mangé, oui, pardon.
À cause du gros nom matin. C'est le matin. Oui,
bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait.
Exactement, bien sûr. Allez, un dernier. Vous avez pour l'instant tout juste la moyenne.
Un dernier exercice.
Vous auriez dû dire des crêpes, virgule, j'en ai mangé.
C'est pas ce que j'ai dit.
C'est ce
que
j'ai dit. J'ai pas entendu, virgule. D'accord.
Lynn Iliès Shaima, c'est extrêmement rassurant. Un ministre de l'Éducation nationale peut se tromper aussi sur la règle du parti passé. Vous la connaissez par cœur, Shaima? Non. Iliès?
Non,
il y a encore un peu de boulot. Lynn, la règle du parti passé?
C'est un peu rapide.
Des crêpes, virgule, j'en ai mangé. Et.
Allez, un tout petit mot parce qu'il faut conclure, ouais. Jean-Michel Blanquer. D'un mot, les enfants, comment vous l'avez trouvé, votre ministre? Pas trop langue de bois, est-ce que ça va ou pas?
Non, ça va.
Ça va, vous pouvez y aller honnêtement, hein. Personne ne tapera sur les doigts ici.
Quelle note vous lui mettez?
8 sur 10.
Sympa,
voyez, bah, c'est bien. Voilà,
ça veut dire ils sont sympas.
On peut faire des erreurs et avoir quand même une bonne note. Mais
exactement.
C'est la leçon que j'en tire.
Merci et d'avoir
merci
joué
les enfants. C'était vraiment
merci beaucoup.
Un
merci.
Grand plaisir d'être avec vous.
Merci à vous, Lynn Iliès, Shaima du.
Shaima.
Pardon, Shaima, évidemment, du collège Georges Saurat de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Merci à vos enseignants qui vous ont accompagnés ici même et qui ont préparé cette émission. On se retrouve, vous restez avec nous, les enfants, puisqu'on se retrouve dans 20 minutes sur France Info Radio. Vous nous raconterez, une fois que le ministre sera parti, ce que vous en avez vraiment pensé.